BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse avec Guillaume Sommerer.
C'est la frange de BFM Bourse qui se rassemble chaque après-midi. Bienvenue à tous et les marchés viennent se confesser auprès de lui. Étienne nous accompagne, Étienne Braque depuis la Tour Euronext, la salle de contrôle des marchés du CAC 40. Bonjour Étienne, comment se passe ce début de semaine?
Bonjour. Ce serait bien prétentieux de dire ça quand même, mon cher Guillaume, mais je vais rester tout à fait humble. En tout cas, pour l'instant, vous avez un CAC 40 qui perd 0,15%, qui est sur les plus bas niveaux de la séance, alors que Wall Street est dans le vert. Mais c'est un vert beaucoup moins vif qu'il y a une demi-heure, malgré la hausse de Tesla et puis surtout de Apple qui permettent au Nasdaq de surperformer. À noter les volumes d'échanges qui sont vraiment très faibles aujourd'hui.
Oui, Apple, effectivement, alors que les volumes sont faibles, c'est une semaine courte, on va en reparler dans un instant. Etienne, et Apple qui se distingue effectivement aux États-Unis avec un pas supplémentaire dans l'IA, dans l'intelligence artificielle. Alors à voir si tout sera complètement confirmé, mais Apple aime bien ChatGPT. Et il y a des choses qui sont peut-être en train de se nouer là entre Apple et ChatGPT. Le titre Apple en profite. Le CAC 40 en tout cas est en légère baisse avant une semaine dense à nouveau devant nous. Un petit peu de prudence et de prise de bénéfices alors que le CAC avait progressé la semaine dernière. On reviendra aussi sur Total Energy qui évoque une possible cotation à Wall Street, cotation principale à Wall Street. Est-ce le début d'un électrochoc? Cette question, on va la poser. On parlera de l'ESG, de ses impacts positifs, mais parfois aussi peut-être un peu plus négatifs pour l'attractivité des marchés européens. On en parlera. Et notre portefeuille BFM responsable, d'ailleurs, qui n'inclut pas ce titre Total Energy. Nos gérants du portefeuille BFM responsable ont vraiment choisi activement d'exclure ce titre Total Energy. Ben, on les challengera sur leur choix. Ce sera tout à l'heure à partir de 16h20 en direct. Et puis, on parlera aussi à nouveau cette semaine de l'anti-obésité, des médicaments anti-obésité, puisque Novo Nordisk et Eli Lilly, deux principaux fabricants de ces médicaments vont publier. Face à eux, McDonald's, Coca-Cola et Starbucks vont aussi publier cette semaine. Ce sera en l'occurrence demain. On est à vos côtés. Bienvenue à tous et on joue dans votre camp jusqu'à 18h.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et le carton du jour, c'est à Wall Street. On parlait d'Apple et un instant, encore mieux qu'Apple. Apple gagne 3%, encore mieux qu'Apple. Tesla gagne 13%. Elon Musk a réussi son coup en Chine. Il n'y a passé que 24 heures, mais alors 24 heures victorieuses, 24 heures qui ont permis à Elon Musk en Chine de franchir les obstacles réglementaires qui l'empêchaient jusqu'ici en Chine de déployer son logiciel de conduite autonome FSD. Eh bien, ces obstacles semblent désormais franchis à l'issue de cette visite. Le titre Tesla donc en profite et gagne 13%. On en parlait en détail avec John Plassard. C'était dans USA Today à 15h30. Les perspectives désormais pour Tesla en Chine face à ses concurrents. John qui nous accompagnait, qui argumentait. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible. N'hésitez pas à le consulter sur notre site BFM Bourse, l'application BFM Business également pour trouver tous les replays de BFM Bourse. Étienne, on le disait donc, début de semaine timide, aussi bien en termes de tendance que de volume sur les marchés européens et à Paris.
Oui, c'est frappant, hein. Rendez-vous compte, il est 16h08 et vous avez 1 milliard d'euros négociés dans l'indice parisien. Donc c'est vraiment un début de semaine qui se fait dans le calme. Alors ça va être chargé avec notamment la Fed mercredi soir, avec également de nombreuses publications d'entreprises cette semaine aux États-Unis, à commencer bien sûr notamment par Apple, hein, deuxième capitalisation boursière mondiale. Et puis à Paris, vous allez avoir 9 sociétés du CAC 40 qui vont dévoiler leurs chiffres d'affaires. Ça sera intéressant demain de surveiller Téléperformance, Stellantis ou encore Air France. Mais en attendant, aujourd'hui, pas de publication. À noter que vous avez des prises de bénéfices sur le secteur du luxe et puis sur l'ensemble des valeurs qui ont touché des plus hauts ces derniers jours. Regardez Saint-Gobain qui perd 0,8%. Vous avez Airbus qui perd 1%. Hermès qui va tenir son AG demain et qui a été l'une des stars de ce début d'année perd 1,8% à 2307 €, quand LVMH de son côté perd 1,9% à 777 €. Safran également, qui était sur des plus hauts historiques, ferme la marche avec une baisse d'un peu plus de 2%. À l'inverse, vous avez les valeurs défensives qui surperforment très légèrement la tendance, et puis également des investisseurs qui jouent les publications de ces prochains jours, à commencer par Téléperf qui gagne 1,6% aujourd'hui. Tendance négative pour le DAX, hein, qui perd 0,2% à Francfort. L'Eurostoxx 50 de son côté perd 0,5%. Et puis hors CAC 40, vous avez Atos, hein, qui s'envole de plus de 20%. Toujours beaucoup de spéculation sur cette valeur. Idem sur Orpea qui reprend quasiment 6% aujourd'hui à 13,50 €. Mine de rien, vous avez beaucoup d'investisseurs qui reviennent sur cette valeur, notamment depuis le regroupement des titres. Et donc l'indice parisien qui perd 0,15%, qui revient à nouveau sous les 8100 points à 8076 points, avant donc une semaine très importante sur les marchés financiers.
Grosse semaine de publication, puis la Fed aussi mercredi soir effectivement. Bertrand Lamiel est avec nous en fil rouge cet après-midi depuis Ports-en-Part. Rebonjour Bertrand. Parmi les nombreuses publications à venir, laquelle allez-vous
particulièrement suivre?
Mais écoutez, on a eu la semaine dernière pas mal de valeurs banques et assurances. Ça va continuer cette semaine, donc voilà, on va voir si ça se passe bien, notamment sur les valeurs du Sud, Italie et Espagne, qui sont leaders sur le marché en ce moment. Et dans les autres valeurs qu'on va suivre, évidemment, Novo Nordisk. Ça, c'est le gros morceau sur la pharma, et en fait, c'est quasiment la seule valeur pharma qui tire son épingle du jeu côté européen. Il y a son pendant côté américain et l'IDD. Donc voilà, ça c'est les titres qui nous intéressent particulièrement parce que dans un secteur défensif, c'est les seuls qui arrivent à surnager, puisque quand on regarde du côté des Bristol Myers, du côté des Pfizer, enfin c'est un naufrage complet. Donc voilà, ça c'est les sociétés qui ont le vent en poupe, et donc on va regarder ce qui va se passer.
Quelques-unes des publications que vous allez particulièrement suivre. Et puis on a Atos aujourd'hui, effectivement, qui se distingue. Etienne en disait un petit mot, puisque l'État vole au secours d'Atos, l'État qui rachètera les activités souveraines, stratégiques, pour un montant peut-être proche d'un milliard d'euros. Ce titre Atos, on le voit en direct. Ceux qui nous suivent à la radio, c'est avec BFM Business, c'est aussi de la télé. Et ce titre Atos en hausse de quasiment 22% aujourd'hui. Est-ce que cette perspective donc, d'une reprise des activités stratégiques par l'État change, transforme, transcende le potentiel avenir d'Atos en bourse, d'après vous?
Non, je pense que ça va rester compliqué. Bon, la hausse qu'on a aujourd'hui, ça illustre bien le fait que, voilà, je crois que la capi d'Atos en ce moment doit être à 120 millions, quelque chose comme ça. Il y a une division qui, manifestement, vaudrait un milliard. Donc ça, c'est la face brillante de la médaille. Mais quand on retourne la médaille, il y a un endettement colossal, il y a des augmentations de capital à venir. Enfin bref, donc ça va rester très compliqué, très spéculatif. Donc on préfère se positionner sur des dossiers sur lesquels on a de la visibilité. C'est pas besoin d'aller chercher les coûts sur ce type de dossier. Donc nous, on va plutôt rester à l'écart.
Vous restez avec nous, Bertrand. On vous interrogera dans un instant sur Vivendi aussi. Mais d'abord, Étienne nous rappelle la Tour Euronext, effectivement, 16h12, parce qu'il n'y a pas que le marché parisien à suivre aujourd'hui en Europe. Le carton à la hausse, il n'est pas à Paris, il est à Amsterdam aujourd'hui, Étienne.
Et ça concerne Philips, hein, qui est une capitalisation importante, d'autant plus avec la séance du jour, plus 30% aujourd'hui pour Philips, hein, qui a gagné quasiment 5 milliards de valorisation boursière aujourd'hui. 30%, pourquoi? Parce que ça y est, vous avez le cauchemar des respirateurs qui arrive peut-être à son terme. Souvenez-vous, en 2021, un gros problème sur des appareils respiratoires, avec des mousses où il y a eu un problème de fabrication, avec un potentiel risque de cancer. Suite à cela, Philips a dû, faire retourner tous les respirateurs dans le monde. Et puis aujourd'hui, il annonce une nouvelle qui soulage les investisseurs en annonçant qu'il va payer 1 milliard aux États-Unis pour solder ce litige, qui a été quand même très important pour la société, hein, puisque que ce soit l'année dernière, mais aussi en 2022, eh bien, le groupe était en perte avec des provisions importantes, avec une image qui a été touchée, hein, surtout depuis quelques années. Philips est uniquement présent dans la santé à Amsterdam, hein, puisqu'il y a eu pas mal de spin-off autour du groupe. Et donc là, eh bien, le fait que le groupe annonce 1 milliard, ça rassure les investisseurs parce que c'est beaucoup moins qu'attendu. Certains analystes attendaient 2-3 milliards. Et donc, suite à cela, eh bien, c'est le bout du tunnel, hein, qui s'annonce un petit peu peut-être pour Philips et les investisseurs qui reviennent sur cette société, sachant que depuis cette histoire des respirateurs en 2021, le titre a perdu 50% malgré la hausse du jour. Et donc, ce titre Philips qui est de loin aujourd'hui l'une des plus fortes hausses en Europe.
On se dit, quand on voit un titre progresser autant là, d'un seul coup, plus de 30% de progression sur une seule séance, Bertrand, on se dit que c'est le déclencheur là, pour le coup, d'un nouveau mouvement, ou voilà, c'est le rebond du chat mort. Comment est-ce que vous voyez Philips et son potentiel après effectivement le règlement de ce litige aux États-Unis?
Ben ça déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement, ça a pourri la vie de Philips ces deux dernières années. Donc là, il y a un accord qui est trouvé. Donc clairement, c'est une bonne nouvelle. 30, ben évidemment, derrière, il y a du rachat de positions short. Hein, quand on voit ce type de mouvement, c'est pas des investisseurs qui viennent se positionner dans une logique de long terme. C'est des vendeurs à découvert. La nouvelle tombe, surprend tout le monde. Donc il faut se racheter en vitesse parce que sinon, ça va leur coûter très cher. Donc maintenant, il va y avoir une nouvelle page à écrire, reconquérir. Après, le sujet, il est là, c'est qu'il y a un sujet qui se clôt avec le procès. Maintenant, il y en a un autre qui va s'ouvrir, c'est les perspectives. C'est-à-dire comment, commercialement, j'arrive à convaincre mes clients que ce qui s'est passé, c'est terminé, j'en ai tiré les leçons et je suis capable dorénavant de faire des produits qui sont complètement safe. Pareil sur certains produits qu'ils vont mettre, il va y avoir la demande de tampons des autorités sanitaires aux États-Unis ou ailleurs, potentiellement qui vont être plus regardantes. Donc voilà, ça c'est la deuxième étape sur laquelle Philips devra fournir des nouvelles et convaincre les investisseurs que voilà, ils sont repartis sur des bons rails et que cette fois-ci c'est la bonne, mais on va dire qu'elle revient dans le jus.
Merci beaucoup. Bertrand Lamienne nous accompagnait depuis les bureaux de Ports en Part, qui aura rebondi sur cette actualité Philips, effectivement, qu'il fallait pas rater. Merci Bertrand. Bon après-midi. Il reste un peu plus d'une heure et quart de cotation sur les marchés. Le CAC 40 est toujours en légère baisse. Une idée de valeur en plus, si vous voulez compléter vos portefeuilles, c'est Sarah Thirion qui est avec nous à présent pour Tipeee Cap Europe. Bonjour Sarah.
Bonjour Guillaume.
Vous êtes à l'achat sur le titre Pierre et Vacances aujourd'hui.
J'avais envie de me remettre en avant Pierre et Vacances, qui fait un sans faute sur l'exécution de son plan stratégique, aussi bien sur la croissance que sur les marges. Et effectivement, on a un groupe qui continue de délivrer un rythme de croissance très très solide. Le premier trimestre était en hausse de 6%, ce qui était déjà extraordinaire. Et le deuxième trimestre, qui a été publié la semaine dernière, a été une très bonne surprise avec une accélération de la croissance et un chiffre d'affaires en hausse de 12%. Point important, en fait, ce S1 qui ressort donc à plus 9 sur les activités touristiques en cumulé, on voit toutes les marques contribuer positivement à la réalisation et on voit que c'est à la fois un effet prix favorable, quasiment plus 6%, et ça c'est le reflet de la stratégie de montée en gamme des établissements du groupe, et d'autre part une progression du nombre de nuitées vendues, signe que les hausses de prix qui sont pratiquées n'affectent absolument pas la fréquentation. Donc normalement, on devrait avoir un deuxième semestre moins soutenu, puisqu'évidemment, une base de comparaison plus exigeante. En revanche, à date, on a encore des réservations pour la période estivale qui sont en progression par rapport à l'année dernière, donc on sera encore en croissance.
Est-ce que ça se verra, ça se traduira directement dans la profitabilité de Pierre et Vacances ?
Ah oui, vous avez raison. Le groupe continue de pratiquer un yield management qui est hyper efficace pour essayer de conserver un mix de croissance équilibré, donc entre les prix pour les deux tiers et les volumes un tiers, pour optimiser son taux de remplissage, et ça c'est favorable à la marge. Et puis il faut rappeler que Pierre et Vacances, ça a été pendant très longtemps une structure de coûts très très fixe, et notamment par rapport à ses comparables, et qu'ils ont entrepris un énorme travail d'économie qui porte largement ses fruits. Et donc ils avaient promis 60 millions d'économies d'ici 2025, ils en ont déjà fait 38 l'année dernière, donc ils sont en avance sur le plan de marche initial. Et l'objectif que le groupe communiquait avant d'un EBITDA entre 145 et 150 millions pour cette année n'est plus mentionné depuis la publication de ce chiffre d'affaires semestriel la semaine dernière, ce qui nous laisse à penser qu'il est possible que le groupe nous réserve une bonne surprise, notamment à l'occasion de son capital market day fin mai, et que cet objectif puisse être dépassé. Autre point qui peut jouer favorablement sur le titre, c'est l'annonce d'un possible refinancement de sa dette actuelle. Ils ont une structure financière qui est bien plus saine, donc le groupe pourrait largement renégocier des meilleures conditions de crédit et de taux notamment. Et puis on a donc au travers de cette exécution parfaite, un titre qui continue de traiter sur des multiples qui sont hyper attractifs. On est à moins de 5 fois l'EBITDA, sachant que les estimations actuelles sont probablement conservatrices et seront probablement relevées. Et donc, on est très à l'aise sur la recommandation et le sentiment sur Pierre et Vacances, qui est, je le rappelle, le leader européen du tourisme de proximité. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, en tout cas, c'est le leader. Et dans des périodes où, effectivement, les prix des billets s'envolent, les gens ont tendance quand même à favoriser le tourisme de proximité. Donc, on reste très convaincus sur cette histoire avec un target price qui est de 2,10€, qui laisse pratiquement 50% d'upside.
Objectif de cours 2,10€, effectivement, près de 50% de hausse, de potentiel de hausse à vos yeux pour ce titre Pierre et Vacances qu'on voit là. Effectivement, sur 6 mois, le titre a déjà récupéré 33%. Il est aujourd'hui encore en hausse d'ailleurs de 3%. Merci beaucoup Sarah Thirion. Et cette idée en plus, si vous souhaitez, vous tous qui nous suivez, compléter vos portefeuilles, valeur ajoutée. Vous pouvez nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux, le fil X et le fil LinkedIn BFM Bourse. N'hésitez pas à vous y abonner. La question qu'on vous pose aujourd'hui, à laquelle vous pouvez répondre, nous laisser aussi vos arguments en commentaire. La question c'est, nouvelle semaine importante sur les marchés avec beaucoup de publications et de rendez-vous. Quel sera à vos yeux le principal rendez-vous à suivre cette semaine ? Est-ce que ce sera la Fed mercredi soir ? Est-ce que ce sera la publication d'Apple jeudi ? Celle de Stellantis aussi qu'on suivra très de près sur le marché parisien ? Ou encore parmi les grands rendez-vous de la semaine, le point d'orgue peut-être même de cette semaine, le 1er mai. Et cette séance, alors qu'il n'aura pas lieu en Europe, il n'y aura pas de séance le 1er mai, mercredi. Est-ce que pour vous, c'est ça l'événement marquant de la semaine ? N'hésitez pas à continuer de voter et surtout nous laisser vos arguments en commentaire. On rebondira dessus dans la prochaine demi-heure avec l'ensemble de la famille BFM Bourse à partir de 16h30.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Alors oui, parmi les grands rendez-vous de la semaine, je ne sais pas si c'est le principal, mais il y aura la Réserve fédérale américaine, la Fed, mercredi soir. Juliette Cohen est avec nous, économiste pour CPRM. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Est-ce que vous attendez un net durcissement de la Fed? Et si oui, est-ce que ça aura un vrai impact ou tout est déjà anticipé par le marché désormais?
Alors on attend effectivement un durcissement dans le discours de Jérôme Powell au vu des dernières données d'inflation qu'on a eues et qui vraiment montrent un coup d'arrêt dans le mouvement de désinflation qu'on a pu avoir. Donc c'est vrai que l'inflation corps PCI a très très peu baissé hein, sur tout le premier trimestre 2024 et donc ça devrait amener la Fed hein, à dire que les taux vont rester plus haut plus longtemps mais on estime que ce mouvement était déjà quand même assez largement anticipé par les marchés. On a vu quand même une hausse des taux qui a été assez significative sur les dernières semaines, donc pour nous ce n'est pas de nature vraiment à surprendre les marchés financiers.
Dans le marché il y a désormais 33% de probabilité d'une hausse de taux d'ici un an. 33%, ça reste une hypothèse minoritaire, mais enfin c'est pas rien 33%. Est-ce que cette hypothèse vous commencez vous-même chez CPRM à l'étudier?
Alors non, nous on ne l'étudie pas encore. Hein. On acte le fait que probablement le mouvement de baisse de taux ne démarrera pas aussi rapidement qu'on pouvait l'espérer. Mais on reste dans l'idée que même dans un scénario un peu adverse, on devrait avoir une baisse de taux, mais qui interviendrait vraiment en fin d'année 2024.
Ici en Europe, on suivra demain L'inflation du mois d'avril, on aura la première estimation. On a eu tout à l'heure le chiffre d'inflation de l'Espagne et celui de l'Allemagne aussi. Est-ce que ça nous donne une première idée de ce que sera l'inflation européenne attendue demain?
Oui, ça donne une première indication et c'est plutôt positif parce que sur l'inflation totale, on est plutôt à la stabilisation et c'est ce qui est attendu pour l'inflation globale en zone euro. Par contre, la bonne nouvelle de ces deux publications, c'était vraiment la poursuite de la baisse de l'inflation sous-jacente et qui est même assez significative hein, à la fois pour l'Allemagne et pour l'Espagne, avec aussi des inflexions pour l'inflation des services. Et ça, c'est plutôt de nature positive si ça se généralisait à l'ensemble de la zone euro.
Cohen. Merci Juliette de nous avoir accompagnés aujourd'hui depuis les bureaux de CPRAM. Et puis la France absoute. Finalement, Moody's et Fitch n'ont pas modifié la note de la France, ni même la perspective de la note française. La France absoute par les agences pour l'instant. Et le 10 ans français, toujours à 3% quand même, il se détend à l'instar des autres taux européens. Aujourd'hui, 10 ans français est à 3,01. On verra ce que nous annonce pour le coup Standard & Poor's. Standard & Poor's qui est en perspective négative sur la note française. Autrement dit, Standard & Poor's de son côté est peut-être plus à même d'abaisser notre note. Et ça se jouera le 31 mai. Il nous reste quelques semaines pour continuer d'en parler.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Et notre portefeuille BFM Responsable, c'est chaque lundi ce portefeuille de valeurs socialement responsables qu'on vous propose, une quinzaine de valeurs ESG grâce à nos trois co-gérants. Guillaume Chalouin est avec nous pour Delubac Asset Management. Bonjour Guillaume.
Bonjour Guillaume.
On est ravis de vous retrouver, bienvenue. Sur la semaine, notre portefeuille progresse alors un peu moins que le reste du marché, plus 1,1% alors que l'Eurostock 50 a gagné 1,5%. On voit que l'ESG en bourse depuis quelques mois sous-performe un petit peu et notre portefeuille du coup bien sûr en pâtit, mais j'ai envie qu'on challenge l'ESG au-delà des performances financières. Enfin, Total Energy qui nous annonce qu'ils réfléchissent éventuellement à faire de Wall Street leur place de cotation principale parce que les Européens achètent moins de Total Energy que les Américains du fait de l'ESG. Et donc, le capital de Total Energy est en train de s'américaniser très très vite au point que Total Energy réfléchit à faire de Wall Street donc sa première place de cotation. Est-ce que l'ESG est coupable ?
Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on observe que la pression change de côté assez rapidement. 2020-21... On parlait beaucoup d'énergie renouvelable, y compris pour justement les majors. Et d'ailleurs, Total se renomme Total Energies, avec un S, donc pour intégrer ces renouvelables. Et puis, entre-temps, le monde effectivement a évolué. Beaucoup de pression sur le plan géopolitique, une hausse du prix du baril, là depuis quelques mois assez importante. Donc, des enjeux financiers qui ont tendance à reprendre le dessus de la partie hydrocarbures. Alors, c'est sûr que l'approche, on va dire, évolution pour les majors, en fait, de l'aspect climatique, il est très européen. Les Américains ont une autre approche. On se souvient de l'État du Texas qui a interdit, en fait, à ces fonds de pension, en fait, d'investir dans des majors qui prendraient en compte ces sujets-là, en tout cas des entreprises qui prennent en compte ces sujets-là. Donc, oui, il y a une grosse dichotomie. Maintenant, ce qui est reproché en fait à Total,
par les Européens, par les investisseurs européens.
Les investisseurs européens, c'est le sujet de continuer à investir au-delà de 2030 dans les hydrocarbures. Et d'ailleurs, c'est l'état d'esprit du nouveau label ISR qui exclut les titres qui continuent à intégrer ces investissements, les énergies fossiles. C'est ça l'idée au fond. Après,
les résultats, les investissements européens dans des groupes comme Total Energy deviennent minoritaires par rapport aux investissements américains, et dans le capital, eh bien, les Européens sont en train de perdre la main. Voilà. Dans un groupe comme Total Energy, qui est quand même une pépite. La France n'a pas de ressources pétrolières, la France métropolitaine, mais même en dehors, pas de ressources pétrolières, et pourtant, ce miracle, Total Energy, est une entreprise française, mais qui s'américanise.
Qui s'américanise, mais aussi l'approche, la vue européenne, allait de faire évoluer, en fait, ces entreprises-là pour préparer la suite. Et ne pas rester dans ce qui va être peut-être un danger pour la suite. Mmh. Et ça, c'est toute la complexité de ce qu'on appelle en ISR le do not significant harm, c'est-à-dire que c'est le fait d'avoir l'autre effet du balancier qui pèse en fait, qui a un impact négatif sur l'évolution positive. Pourquoi ? Parce que les majors, de par la manne des hydrocarbures, des revenus qu'elles ont de ces hydrocarbures, financent en fait leur mutation vers le renouvelable. Aujourd'hui, les renouvelables, c'est un tiers dans Total. Alors l'approche en fait américaine, anglo-saxonne américaine, c'est les dividendes, on va dire, à court terme. Et cette masse-là, elle est encore tirée des free cash flow issus d'extraction et d'hydrocarbures, ça c'est sûr. Alors que l'approche européenne, c'est d'essayer de voir plus loin et donc de parier sur la suite pour ne pas être impacté sur ce qui devra rester à terme dans le sous-sol, en fait.
Mais vous y croyez au point d'être capable aujourd'hui, d'être prêt à dire aujourd'hui à Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, qu'il aurait tort de vouloir faire de Wall Street sa place principale de cotation, parce qu'à moyen long terme, l'Europe étant tellement en avance en matière ESG, à moyen long terme, la création de valeur, elle sera ici en Europe plus qu'à Wall Street. Vous seriez prêt à le penser, à le dire, à l'assumer, à le clamer, à le répéter?
Déjà, je pense que c'est utopique, parce que on a beaucoup parlé de Exxon, par exemple, c'est deux fois mieux valorisé qu'un Total en bourse américaine. Oui. Le fait est, effectivement, sur un plan purement PE, c'est le cas. Sauf que c'est une utopie, je pense, aujourd'hui, de croire que cette délocalisation de la cotation, enfin, cette cotation primaire, on va dire principale aux États-Unis, elle permettrait de refermer, en fait, ce gap de valorisation. Pourquoi ? Parce que, d'abord, le coût, en fait, de la base d'extraction aux États-Unis, elle est plus faible que dans les actifs en fait de Total. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que les zones d'extraction, elles sont aux États-Unis. Elles sont pas dans des zones, sur un plan géopolitique, et on le vit en ce moment, qui peuvent être plus compliquées. Donc ça veut dire qu'on a une prime de risque géopolitique qui, de toute façon, perdurera.
Oui. Donc côté à Wall Street ou pas côté à Wall Street, ça fera pas disparaître cette...
Exactement. Et pour un investisseur américain, oui, aujourd'hui, effectivement, ouais, on a des investisseurs américains qui font cette analyse-là, de réduction en fait de l'écart de valorisation, parce que c'est vrai que sur un plan de performance financière, Total est très bon, voire même meilleur qu'un Exxon, mais ça peut pas être une réduction à terme Total équivalente par rapport à une major américaine.
Oui, Wall Street n'est pas magique, c'est donc ce que vous dites aussi.
Sur un plan purement financier, oui, il y a un peu de levier, maintenant à voir.
Ouais, et Total ne rattraperait pas son retard de valorisation sans doute sur Chevron et Exxon, d'autant que Total n'intégrera pas le S&P 500, n'intégrerait pas le S&P 500, parce que pour intégrer le S&P 500, il faut que le siège soit aux États-Unis, ce qui n'est pas l'objectif de Total. Patrick Pouyanné l'a dit, on est un groupe français, on restera français et basé à Paris.
C'est un déplacement de la cotation primaire, pas du siège social. Attention, c'est deux choses différentes. Et d'ailleurs, on peut ajouter qu'il existe déjà actuellement ce qu'on appelle une ADR, un certificat, qui cote aux États-Unis pour Total.
Oui, tout à fait. Mais donc, si Total vient coter principalement à Wall Street, il n'intégrera pas pour autant le S&P. N'intégrant pas le S&P, il n'intégrera pas un certain nombre d'ETF. Et donc, il ratera une partie de la valeur, justement, la survaleur de Wall Street. Bon, on aura mille fois l'occasion d'y revenir, mais tout ça est très intéressant. Et alors, c'est d'autant plus intéressant que vous avez choisi, vous, les trois co-gérants du portefeuille ESG, le portefeuille BFM responsable, depuis le début d'ailleurs, de ne pas intégrer Total Energy dans ce portefeuille. Mais vous ne renoncez pas à intégrer les matières premières malgré tout.
Tout à fait.
Et d'ailleurs, vous êtes en train de réfléchir à intégrer une nouvelle valeur dans les prochains jours peut-être.
Tout à fait. Alors, c'est le titre Aurubis, dont on a déjà parlé.
Aurubis.
AURUBIS.
Voilà. Ouais. Alors, qui cote en Allemagne, hein, qui est une entreprise allemande, et ce qu'on appelle un raffineur dans le monde de la métallurgie. Hein. Donc, qui va se fournir en cuivre auprès de sociétés minières d'extraction, et aussi qui va se fournir en cuivre auprès de marchés secondaires de recycleurs, de recyclage. Et donc, va produire des produits en cuivre, donc raffinés, qui vont être vendus. Parmi tous ces produits en cuivre donc raffinés, on a des cathodes. Ça nous intéresse évidemment.
Cathodes. Produits. Ça rappelle les cours de physique chimie. Hein,
exactement. Électrochimie. Élément important puisque constitutif des batteries. Batteries notamment pour les véhicules électriques. Donc ça sont des éléments d'avenir. C'est ça qui nous intéresse. Et puis c'est un titre dont la production se fait essentiellement en Allemagne à hauteur de 80%. Et notamment sur un site principal qui est situé à Hambourg. Donc ça fait qu'en termes d'éléments ISR, on est sur des éléments qui sont de nature à être mieux disant, à être supérieurs par rapport à leurs principaux concurrents. Alors d'abord dans le secteur pur minier, hein, avec des sociétés qui sont souvent en zone d'extraction géopolitiquement compliquée, dans des pays compliqués. Et là, on a une entreprise qui est plutôt située essentiellement en Europe. Donc, sur le plan social, c'est assez bien bordé. Et puis, sur le plan environnemental, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, justement, dans la gestion des émissions de carbone, de la gestion de l'eau, etc. Donc, c'est un élément qui nous intéresse. On regarde quand même un petit peu en termes de niveau de marché.
Oui, c'est pas un peu cher. Voilà, même au rubis, ça y est, oui, ça a bien progressé.
Ça a
progressé,
pas mal progressé, de fait, puisque ça suit effectivement le cours du cuivre. Mais donc, bon, ouais, ça pourrait se faire dans les semaines à venir.
Chercher un point d'entrée encore.
Exactement.
Au rubis, en tout cas, que vous avez dans le spectre, effectivement, qui pourrait intégrer ce portefeuille BFM responsable. Merci beaucoup, Guillaume Chaloin. On est l'un des trois co-gérants de Lubac Asset Management. Merci, Guillaume, d'être passé nous voir. Vous co-gérez ce portefeuille avec Frédéric Rosier pour Mirabeau et Stanislas de Bayancourt pour Sycomore AM. Bon retour. Le CAC 40 est en baisse, moins 0,1%. Dans un instant, c'est la famille qui va se réunir jusqu'à 17h et le bullshitomètre aussi. Rendez-vous, vous attendez de plus en plus nombreux bullshitomètres dans la prochaine demi-heure, juste après la pause. A tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
Et la famille, chaque jour, se réunit jusqu'à 17h, les équipes radio, télé de BFM Bourse, BFM Business, mais aussi les équipes web. Julien Marion est avec nous aujourd'hui. Bonjour Julien. Début de semaine sur les marchés, on est sur le CAC 40 en léger repli cet après-midi, moins 0,18%.
Ouais, on est passé de moins 0,1, de plus 0,1 à moins 0,1. Oh, dire la volatilité de la tendance. Non, mais on est sur une séance d'attente, d'anticipation. Demain, ça va s'accélérer très sérieusement. Hein. Il y aura beaucoup de résultats d'entreprise. La Fed en milieu de semaine, d'autres, des ponts de Wall Street qui publient. Bref, le meilleur. Ou le pire peut-être, remarque.
Non, le meilleur. Optimiste.
Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir.
Demain, beaucoup de publications. On aura l'occasion d'y revenir, effectivement. Tiens, dans l'anti-obésité, ça va être super. Il y aura un match de l'anti-obésité cette semaine, vraiment. Ah, avec demain, qui va publier demain? Eli Lilly, producteur, fabricant d'un des médicaments anti-obésité. Et en face, publieront aussi McDonald's, Starbucks et Coca-Cola. Les trois publieront demain en même temps que le fabricant des médicaments anti-obésité, Eli Lilly. Et puis on aura Novo Nordisk en Europe aussi à suivre cette semaine, ce sera jeudi.
On sait plus à ça.
Ouais, effectivement. La semaine en 4 jours d'ailleurs. Ouais, c'est pas la semaine 2, 4 jours, mais c'est la semaine en 4 jours là, qu'on va vivre sur les marchés, puisque les marchés européens, la plupart d'entre eux en tout cas, seront fermés mercredi 1er mai. Gilles Santacreux est avec nous pour boursicoté.com. Bonjour Gilles. Merci de répondre à l'appel de BFM Business. Comment vous la sentez cette semaine d'un point de vue technique pour le CAC?
Alors un début poussif, hein, vous l'avez souligné, très peu de volume, très peu de volatilité. Votre intervenant précédent disait on est passé de plus 0,1 à moins 0,1%. Il y a juste une zone qui était intéressante à observer aujourd'hui, c'était le niveau des 8092 points. Il a fait office de support sur toute la première partie de la séance et puis il a cédé, là il y a un peu plus d'une heure, refaisant passer le CAC 40, je dirais, dans un biais un peu plus global, de légèrement positif à neutre. Alors donc tant que l'on évolue entre 8092 et au-dessus des 7975 points, par rapport à, je dirais, la précédente dynamique de consolidation que nous avions depuis la fin du mois de mars, eh bien, on était dans une phase baissière. On est sorti de cette phase baissière, mais on attendait un retournement haussier, mais qui n'est pas confirmé. Donc, on est dans une phase de neutralisation. Donc, effectivement, on sort de cette phase de consolidation, mais pour un biais qui est pour l'instant incertain et neutre. Il faudrait repasser donc durablement au-dessus des 8092 points pour confirmer que le rebond est bien d'ailleurs peut continuer et nous ramener sur des niveaux proches des plus hauts historiques du CAC 40, alors qu'une rupture justement de ces 7975 points, zone inférieure de la partie de la zone de neutralité, nous donnera un signal beaucoup plus négatif. Entre les deux, eh bien, je dirais qu'on va se chercher un petit peu. Les messages directionnels sont assez incertains. Au niveau de mes algos, il y a très peu de dynamique qui ressort avec, je dirais, beaucoup de probabilité. Mmh. Donc, clairement, on est dans une phase d'attente. La fin de semaine sera assez riche, notamment à partir de mercredi qui sera férié. Oui. Et par rapport à cela, d'ailleurs, ce qui sera intéressant d'observer, c'est le comportement du marché en cas d'annonce imprévue. Je dirais, s'il y a une absence de contrepartie par justement manque d'investisseurs sur les marchés liés à ce jour férié, on pourrait avoir une très forte hausse de la volatilité. Donc, ça sera intéressant à surveiller. Et pour compléter, j'entendais Julie disserter des retracements de Fibonacci. Ce dont il faut se souvenir, c'est que par rapport à la phase de hausse qui est démarrée de mi-janvier jusqu'à la fin du mois de mars, eh bien, la phase de consolidation que nous avons connue depuis est venue chercher quasiment le retracement à 38,2%. Donc, on n'invalide pas pour l'instant le mouvement haussier qui a donné cette impulsion.
Et ça, c'est une bonne nouvelle, effectivement. Sur le potentiel à venir du CAC, Wall Street est en hausse. De son côté, en ce moment, plus 0,38 sur le S&P. Il y a une star à Wall Street aujourd'hui, un titre en hausse de 12%, c'est Tesla. Incroyable. La visite éclair d'Elon Musk en Chine a fait des miracles. Les 24 heures d'Elon Musk en Chine lui ont permis de franchir les obstacles réglementaires qui jusqu'ici l'empêchaient Tesla de déployer son logiciel de conduite autonome sur place en Chine. Eh bien, les 24 heures de visite en Chine ont permis de lever ces obstacles réglementaires. Tesla qui va manifestement donc pouvoir déployer son logiciel de conduite autonome FSD en Chine. Et le titre gagne 12%. Une autre valeur attire votre attention aujourd'hui, Gilles, c'est Total Energy, voilà, dont on parle beaucoup, qui pourrait choisir Wall Street pour cotation principale. On en parlait d'ailleurs dans la précédente demi-heure. C'est Guillaume Chaloin qui nous disait oui, bien sûr, Wall Street permet de mieux se valoriser. Pour autant, Total Energy, s'il venait à se coter davantage et plus massivement à Wall Street, n'atteindrait pas les niveaux de PE, les niveaux de valorisation de ses pairs américains pour plein de raisons que Guillaume Chaloin nous a exposées. Si vous avez raté le direct, d'ailleurs, le replay est à retrouver. N'hésitez pas sur notre application BFM Business. Vous, d'un point de vue technique, ce titre Total Energy, vous trouvez qu'il est parti désormais pour plafonner ou au contraire, Gilles, il a encore du potentiel pour ce qui concerne en tout cas le marché parisien?
Alors, dans l'analyse technique, on fait totalement abstraction justement de tous ces éléments fondamentaux ou macroéconomiques. On essaye de regarder juste les graphes. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est que déjà, on est sur des plus hauts historiques. On avait un précédent plus haut qui avait été marqué le 12 avril et qui nous avait donné une résistance en intraday à 69,05. Eh bien, cette zone, on l'a cassée la semaine dernière et c'est ce niveau des 69,05, après donc inscription d'un nouveau plus haut historique, est devenu support. Une résistance qui devient support est toujours un signal positif sur les marchés. Au niveau des indicateurs, on ne constate pas de configuration excessive ou surachetée. Donc, étant porté par un support oblique qui est très dynamique, eh bien, on a toujours ce potentiel haussier qui est intact. Et tant que l'on restera au-dessus justement de ce support des 69,05, eh bien, on peut continuer à monter malgré justement cette forte hausse que nous avons connue ces dernières semaines. Donc, d'un point de vue technique, c'est toujours très positif sur ce titre.
Ce titre Total Energy, effectivement, qu'on va continuer de suivre, dont on va continuer de parler, et qui, alors Julien, vous y consacrez d'ailleurs un très très bel article sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com, et je crois qu'il marche plutôt pas mal. C'est pas parce que Total Energy viendrait un jour à se faire coter essentiellement à Wall Street qu'il intégrerait le S&P. Non, intégrer le S&P, ce sera pas facile pour le groupe Total Energy.
Bah, c'est même impossible, mais Pascal l'a dit lui-même en fait aux analystes. Hein. C'était l'analyste de Goldman Sachs qui a posé la question. En fait, il peut pas pour une raison simple, c'est qu'ils sont pas domiciliés aux États-Unis.
Ah oui, pour intégrer le S&P, il faut être domicilié.
Oui, après, il y a des questions un peu tordues sur est-ce que si vous avez un siège opérationnel, ça peut marcher. Vous savez, S&P a de façon un comité qui regarde ça. Donc, mais Pouyanné, il a très clairement dit, c'est pas l'agenda.
Et puis alors, Total Energy, côté principalement à Wall Street, ça lui permet très peut-être d'attirer les investisseurs malgré les questions ESG, sans doute. Mais enfin, si sur l'environnement, le groupe Total Energy attire les investisseurs américains moins les européens, sur les questions de gouvernance, attention, et c'est Mathieu Pechbetier, notre spécialiste de secteur industriel qui alerte là-dessus, sur les questions de gouvernance, Total Energy serait sans doute secoué davantage à Wall Street qu'en Europe, parce qu'aux États-Unis, il n'aime pas trop les PDG. Patrick Pouyanné est PDG.
Oui.
Et cette question de gouvernance, il a été renouvelé en tant que PDG. En tout cas, le poste de... Enfin, comment on peut dire ça ? La gouvernance PDG, donc la réunion des postes de président et directeur général, tout ça a été acté et renouvelé en Assemblée générale il y a quelques jours. Les Américains, eux, n'auraient sans doute pas acté cela. Eux, ils aiment bien, au contraire, diviser les postes de président et directeur général. Ce que ne souhaite pas Patrick Pouyanné. Donc attention, parce que plus ils dépendront de Wall Street chez Total Energy, et plus ce poste de PDG sera sans doute remis en question.
Bémol.
Julien.
Jamie Dimon, le plus grand banquier au monde, il est quoi d'après vous ?
Ah, il est PDG.
Il est PDG.
Il est PDG.
À Wall Street.
Ah.
Mais c'est aussi pareil chez BlackRock ou Blackstone, mais on a un PDG. C'est surtout au Royaume-Uni qu'on n'a pas ça.
C'est le moment de la question du jour sur nos réseaux sociaux, notre fil LinkedIn, BFM Bourse. Vous pouvez vous y abonner, n'hésitez pas, notre fil X également. Et la question qu'on vous pose aujourd'hui, à l'aube d'une nouvelle semaine intéressante et importante, quel sera pour vous le principal rendez-vous à suivre cette semaine? Est-ce que ce sera la Fed mercredi soir? Est-ce que ce sera la publication d'Apple jeudi? À Paris, celle de Stellantis, pourquoi pas? Ou finalement, tout ce qui compte pour vous, c'est votre jour férié du 1er mai? Ah oui. Pour vous, Julien, c'est quoi la réponse?
Transparence totale. Apple.
Ah, j'aurais pensé que vous voteriez le jour férié.
En fait, je dis Apple pour pas dire la Fed. Hein. Très sincèrement.
D'accord.
Très sincèrement, non, moi, ça m'intéresse quand même Apple parce qu'il y a eu pas mal de fonds qui commencent à dire que le titre a un peu trop souffert et qu'il est temps un peu que ça se reprenne. Et guetter éventuellement des annonces sur l'automne prochain avec le nouvel iPhone 16. Mais bon, j'imagine que c'est la Fed qui gagne hein, parce que vous ne pouvez pas lutter contre la Fed.
Oui, mais c'est effectivement le vote majoritaire. 45% d'entre vous, vous avez voté la Fed. Pour vous, ce sera le principal rendez-vous de la semaine pour les marchés. La Fed à 45%, devant Apple à 24%. Stellantis arrive en dernière position à 15%. Puis 16% d'entre vous, vous vous concentrez plutôt sur le jour férié du 1er mai.
Qui a pété Stellantis, du coup.
Effectivement. 1er mai férié pour le marché parisien, pour un certain nombre de places européennes, mais pas Wall Street. Hein. Wall Street sera ouvert. Et puisque vous évoquez Apple, intéressant, aujourd'hui, Apple, 16h42 en direct, il est 10h42 à New York, le titre Apple gagne 3,5% parce qu'Apple manifestement fait un pas de plus dans l'intelligence artificielle, c'est pas encore officiel, mais on nous parle aux États-Unis, on parle beaucoup dans les salles de marché américaines, effectivement de l'intérêt d'Apple pour ChatGPT, et pourquoi pas intégrer ChatGPT, effectivement à un certain nombre de solutions Apple, le titre Apple gagne en ce moment 3%. BFM Bourse, on est ensemble et en famille jusqu'à 17h. Quelle valeur, à quelques mois, 87 jours même maintenant des Jeux Olympiques, quelle valeur pourrait en bénéficier de ce grand événement à Paris, puis bénéficier aussi de l'Euro de football en Allemagne? C'est la question que s'est posée Odo BHF dans une vaste étude. Julien, vous y consacrez d'ailleurs aussi un article.
Oui, ils ont passé à la moulinette 43 valeurs, hein, quand même, 43 valeurs. Il y a 6 gagnants, selon eux. Sodexo, Accor, JC Deco, Adidas, Unibail, Rodamco, Westfield, EasyJet, j'espère que j'en ai pas bien, mais voilà, il y en a 6. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder 3.
Regardez 3, on démarre par quel titre qui pourrait particulièrement bénéficier de l'euro et des JO?
Écoutez, moi je vous propose JC Deco parce que j'ai senti chez Odo BHF la volonté de vraiment mettre cette entreprise en avant. Parce que pour eux, dans les médias, l'univers étendu des médias, c'est eux qui vont gagner, qui sont à médaille d'or pour ces deux événements sportifs et d'assez loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont 18% de leur chiffre d'affaires en France et Odo estime que c'est autour de 7% en Allemagne. Donc ça fait un quart exposé à ces deux, d'une façon indirecte, si vous voulez, à ces deux événements. En fait, ça veut dire quoi? Pour eux, des grands événements sportifs, ça veut dire plus de gens, plus de trafic, plus d'audience, et donc plus de chiffre d'affaires pour ce qu'on appelle la division mobilier urbaine. Vous savez, c'est les panneaux d'affichage, tout ça, au cœur des centres-villes. Et d'ailleurs, selon Odo, si je prends que les JO, c'est 30 millions d'euros en plus sur le CA. Si vous ajoutez l'euro en Allemagne, on arrive à 40. Et si on regarde l'EBITDA, les deux événements ont un impact de 15 millions d'euros en plus. Donc, c'est pas du tout négligeable.
Donc, JC Deco parmi les grands gagnants à venir des JO et de l'Euro 2024 selon Odo BHF. Du côté des compagnies aériennes, Odo BHF a repéré, détecté un potentiel sur EasyJet plus EasyJet qu'Air France KLM. C'est un peu bizarre quand même, ouais. Les JO sont à Paris cette année.
Je vais vous expliquer. En fait, Odo BHF, ils sont l'équivalent de vendre sur Air France KLM pour des raisons de cash flow négatif en fait. Donc ils vont pas vous dire jouer cette valeur si à côté de ça, terme, ils sont pas optimistes. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que en fait, quand vous prenez les deux événements, pas les JO seuls, mais les deux événements, EasyJet a plus de potentiel pour capter parce qu'ils sont très présents à Orly, à Charles de Gaulle, mais aussi dans plusieurs aéroports allemands où il y aura des compétitions. Par ailleurs, EasyJet, ils ont en fait un atout que très peu de compagnies aériennes ont, c'est qu'ils n'ont pas de problème sur leur capacité. Elles ne sont pas à plein. Ils ont encore des avions disponibles, donc ils peuvent marginalement modifier leur réseau pour aller capter les prix, la demande, et donc s'adapter. Je rappelle, hein, au fait, Odo BHF nous dit, pour les compagnies aériennes, ces événements sportifs, ce n'est pas plus de passagers. Parce que les avions, ils sont déjà remplis à ras-bord, je caricature, l'été. Par contre, c'est sur les tarifs, le prix moyen que ça joue.
Oui, et ceux qui auront essayé de réserver leur billet d'avion pour cet été au départ de Paris auront constaté effectivement une forte hausse des prix. Alors du coup, on obtient presque le même prix qu'avant et encore plus élevé, mais sans le bagage en soute. Là, c'est... Enfin bon, bref. Tiens, parmi les autres gagnants, non, mais c'est du vécu, les autres gagnants à venir des Jeux Olympiques, vous citiez EasyJet, JC Deco, Codo BHF a identifié, puis il y a aussi, dans l'immobilier, tout n'est pas foutu, loin de là, il y a aussi Unibail, Rodamco, Westfield.
Ouais, je sais pas, vous, ça m'avait paru, moi, ça m'avait paru un peu surprenant quand je les ai vus, je sais pas vous.
D'accord. Ouais, je suis d'accord.
Oui. Mais en fait, vous allez voir, c'est assez logique. Unibail, en fait, ils ont une co-entreprise avec les CCI de France qui s'appelle Viparis. Oui. Viparis, ils ont plusieurs salles, notamment la porte de Versailles, alors on appelle ça le parc des conventions, je crois, à Porte Maillot.
Oui, le congrès.
Le congrès,
pas, le palais des congrès, le palais des congrès.
Voilà. Et encore deux autres. Et en fait, ces palais, ces salles, elles sont généralement vides l'été. Sauf que là, qu'est-ce qui va se passer durant les JO? Ben, vous allez avoir des centres de presse, vous allez avoir des événements sportifs. Ah, oui. Porte de Versailles, il y a du basket et du volleyball. Moi, je vais voir du volleyball, Porte de Versailles, d'ailleurs, normalement. Ouais. Donc, vous voyez, il y a de l'activité. Donc, c'est des loyers en plus pour eux, d'une part. Et d'autre part, vous avez 8 centres commerciaux parisiens qui vont vendre, qui vont avoir un accès de fréquentation, plus de trafic et qui vont vendre des produits. Et donc, si vous prenez tous ces effets, Odo BHF pense que pour Unibail, ça veut dire 1%, un impact positif de 1%, c'est-à-dire 10 centimes sur l'équivalent du bénéfice par action retraitée. Je ne vous donne pas vraiment ce que ça veut dire parce que c'est compliqué, mais voilà, donc ce n'est pas négligeable.
Quelques-unes des valeurs qui en bourse devraient bénéficier des JO et de l'euro. On n'oublie pas l'euro qu'organiseront les Allemands, effectivement, au mois de juin. Ça approche, hein, c'est dans un peu plus d'un mois à peine. Enfin, là, on entre dans les beaux jours, on ne s'en rend pas trop compte, effectivement.
Vous n'avez pas trop l'euro, vous êtes plus rugby.
Ouais, oui, mais là, quand on est rugby, on est ouvert, on est comme ça. C'est Julien Marion qui nous accompagne. La famille qui se poursuit et la France, bonne nouvelle, absoute par les agences de notation. Le 10 ans français après le statu quo de Fitch et Moody's, le 10 ans français repasse sous les 3% à 2,99. C'est l'objet du bullshitomètre. Véronique Richelaurès nous rejoint chaque jour et un expert de marché, un économiste, un gérant vient déconstruire des idées reçues ou des effets de mode un peu trop faciles. Et aujourd'hui, Véronique se prête au jeu. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Et donc la France absoute par Moody's et Fitch, et finalement c'est bien normal. On entend beaucoup ce discours que la France mérite de garder une très très belle note financière. Mais vous vous dites « Bullshit !» Vous foudroyez. Cette idée que la note française inchangée, ben finalement c'est justifié et mérité. Pourquoi ?
Alors je foudroie. Tout d'abord, il y a pas grande surprise. Alors, quelques-uns s'attendaient effectivement à une dégradation. Moi, il me semble que le contexte politique, géopolitique, et y compris un petit peu d'une amélioration des perspectives économiques, laissait penser qu'on n'aurait pas de mauvaises nouvelles cette fois-ci. Il n'en reste pas moins que la situation est assez dramatique. Elle est dramatique, pourquoi ? Parce que d'abord, on est face à une situation où à peu près tous les trimestres, on révise les anticipations. Donc, on a l'impression de naviguer à vue avec un gouvernement, effectivement, qui est confronté à des dépenses supplémentaires récurrentes, régulières, sur tout un tas de domaines où on a des besoins effectivement très importants et en même temps donc des déficits très importants et une dette qui continue de flamber. Alors ceci dit, en pourcentage du PIB, l'inflation aide encore un petit peu, mais surtout c'est ce manque de direction qui est extrêmement gênant et qui traditionnellement est sanctionné par les agences parce que précisément on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on va. On constate de mois en mois, j'ai envie de dire, des données qui sont pas bonnes, qui vont pas dans la bonne direction, sans en avoir la contrepartie économique.
C'est-à-dire que c'est ça qui vous inquiète le plus. C'est-à-dire que non seulement la France s'endette de plus en plus, mais c'est de l'endettement non productif, moins productif, moins prometteur d'avenir que l'endettement croissant d'autres pays. Parce qu'on n'est pas les seuls à s'endetter.
On a envie, par exemple, de comparer avec les États-Unis. Alors, non pas que la situation américaine ne pose pas beaucoup de questions, hein. Mais si on regarde ce qui se passe sur le plan budgétaire, des déficits colossaux, une dette effectivement d'ailleurs peu ou prou du même niveau que la France en pourcentage du produit intérieur brut, hein. Sauf que là, il ne se passe rien. Pourquoi ? Eh bien parce que finalement, les dépenses sont fléchées, elles sont même très très fortement fléchées vers les nouvelles technologies, le programme IRA d'une part, et puis le développement des puces électroniques, que ça donne des résultats qui seront durables ou pas. On ne sait pas, on verra bien. Mais pour l'instant, ça donne des résultats en termes de productivité et de croissance. Donc, l'État fait une avance, il assure quelque part la garantie de ce remboursement d'avance par des résultats. Nous, on fait des avances, clairsemé un petit peu partout, sans que personne ne puisse dire d'ailleurs vers où sont fléchées ces dépenses. Et on n'en a aucune retombée. C'est même de pire en pire. En réalité, on peut calculer un indicateur de productivité de la dette publique. Hein. On le fait en comparant les gains de productivité par rapport à l'accroissement de la dette. Et là, on est clairement en territoire négatif depuis 3 ans. Hein. Alors, il faut vraiment redresser la direction vers quelque chose qui soit porteur pour se protéger du retour des agences, enfin du retour des notations négatives. Je pense qu'aujourd'hui, on n'en prend pas la voie. Et il me semble que ce qui nous guette, du coup, c'est effectivement un abaissement de la note française. Alors,
on va en parler.
Mais alors, vous êtes économiste, Véronique. Bien. Mais quelle solution on peut avoir? Parce que, si vous voulez, on fait des purpose bonds, donc des obligations fléchées, alors que les gouvernements passent leur temps à faire des gestes politiques. Et il y a aussi les cycles politiques et économiques qui rentrent en question. Donc, qu'est-ce qu'on fait?
Je pense qu'au point de déficit et d'endettement où nous sommes, il n'y a pas 50 réponses. Une dépense, une recette. Et aujourd'hui, on a beaucoup de dépenses qui sont justifiées, hein, qui sont indispensables et qui également nous protégeront, on l'espère, notre souveraineté demain, sous réserve de garder la souveraineté budgétaire, c'est-à-dire une notation raisonnable, effectivement, et qui nous permette de continuer à emprunter sur les marchés pour précisément pouvoir faire face aux besoins environnementaux, militaires, etc. Mais je crois qu'il y a une règle d'or, quelque part, surtout quand on a un niveau d'endettement comme celui-là, c'est une dépense supplémentaire, une recette. Et à un moment donné, effectivement, va se poser de manière, et se pose déjà d'ailleurs, de manière très claire, la question des recettes publiques, donc de l'imposition en France. Alors c'est un sujet tabou, referme constamment.
Pas vous n'avez pas plaidé pour des hausses d'impôts, pas vous, Véronique.
Eh bien si, mais à un moment donné, mais quelle hausse d'impôts?
Alors, hausse d'impôts,
plus grande exigence quand on donne des subventions dont les montants encore sont très importants. Là aussi, subvention, résultat, on vous aide. Et en contrepartie, on attend ça. Aujourd'hui, non. Enfin, ces dernières années, c'était absolument pas le discours. Et je pense qu'on en paye les conséquences et qu'on peut pas continuer comme ça parce qu'on va s'en mordre les doigts. Et là où on va s'en mordre les doigts, c'est bien sûr au niveau du coût de la dette, mais à la limite, les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté, on a survécu. Mais c'est surtout par rapport au déclassement de la France, c'est un point supplémentaire. Et puis, à cette question de la souveraineté, à un moment donné où effectivement un État a besoin d'avoir les mains libres pour rassurer sur l'avenir.
Imaginons Javier Milei devient le président en France. Ben voilà, le président argentin très libéral qui, alors lui, coupe, sabre vraiment un certain nombre de... Mais sabre, sabre quoi, voilà, il sort l'épée vraiment vis-à-vis d'un certain nombre de dépenses.
Alors vous on ne vient pas sauver Atos. Hein.
C'est ce dont la France a besoin ou pas? Oui, il n'aurait pas sauvé Atos, effectivement. Et pour le coup, l'État a sans doute raison de sauver une partie des activités stratégiques d'Atos. C'est une dépense de plus, vous allez me dire. Ben oui, mais il faut.
Ben oui, mais à un moment donné, c'est comme un ménage. Hein,
ça ne rentre pas dans le déficit, ça, par contre.
Pardon?
L'investissement d'Atos, il ne rentre pas dans le déficit.
Oui, d'accord. Mais il n'en reste pas moins que, effectivement, c'est pas un bon exemple. Mais voilà, si on compare à Milei, effectivement, il n'y aurait pas eu cet interventionnisme. On aurait laissé les forces de marché, sans doute, et Atos disparaître, peut-être encore que.
Oui. On n'aurait pas augmenté les impôts. Vous dites qu'il faut augmenter les impôts. Dans le pays le plus imposé de l'OCDE, vous dites qu'il faut encore augmenter les impôts.
Mais il faut de la rigueur. Si vous donnez des subventions aux entreprises, il faut une contrepartie des résultats. On n'a pas cette politique de résultats. Si on veut développer et mettre les fonds nécessaires au redéploiement de notre industrie militaire, de la défense à laquelle la France contribue particulièrement en Europe, eh bien, il faut également qu'on en ait les moyens. Donc, il n'y a pas...
Et encourager l'activité. Ce n'est pas en imposant plus que vous allez encourager l'activité, libérer le potentiel de ce pays.
Écoutez, pour l'instant, on a quand même donné beaucoup aux entreprises pour encourager l'activité, beaucoup y compris de baisses d'impôts il y a quelques années. On n'en a pas vu les retombées. Il faut une politique d'investissement public qui soit fléchée pour tirer le capital là où on en a besoin. Cette politique fléchée, elle n'existe pas.
Il y a l'épargne pour ça aussi, l'orientation de l'épargne au-delà des hausses d'impôts. On peut aussi taper sur l'épargne, l'épargne réglementée qui est quand même très importante. Mais
exactement.
Moi j'entends votre propos.
Posons-nous
qui
la
dire
question. Je crois que j'entendais Bruno Le Maire ce matin ou récemment dire si on veut que les ménages consomment, il faut qu'ils désépargnent. Et pour qu'ils désépargnent, il faut qu'ils soient rassurés. Si on n'a pas de visibilité ou de visibilité sur la politique publique. Comment voulez-vous donner de la visibilité aux ménages pour qu'ils désépargnent?
Pour le coup, ce gouvernement, on ne peut pas lui dire, on ne peut pas l'accuser de ne pas donner de visibilité sur le fait de ne pas augmenter les impôts. Il est quand même relativement constant quand même. Alors après, il y a des tours de passe-passe parfois aussi. Mais franchement, vous vous souvenez vous souvenez de l'époque Hollande, là où il y avait de la fiscalité rétroactive? Vous vous en souvenez de cette époque?
On se souvient de toutes ces années qui étaient extrêmement nocives, où tous les 6 mois, grosso modo, on avait un plan de restriction budgétaire et d'augmentation d'impôts qui était extrêmement nocif. Mais je dis qu'il y a un équilibre qu'on n'a pas trouvé.
On a encore trouvé l'équilibre. On s'est approché de l'équilibre quand même ou pas par rapport à avant? Ah mais franchement Véronique, on se plaint là tout le temps, manque de visibilité. Non, fiscalement, il n'y a pas d'énorme manque de visibilité.
On s'est approché d'équilibre, on a été rassuré et backé par l'Europe et le grand plan de relance en 2020. Et finalement, qu'est-ce qu'il est devenu ce grand plan de relance? Qu'est-ce qu'on en a fait en France, comme dans la plupart des pays européens? C'est inadmissible, on a des urgences, il faut y aller. On veut faire de une économie plus verte ou on est frileux, on y va à moitié. On veut se protéger contre la concurrence déloyale de certains produits chinois ou pas. Et c'est toute cette politique qui n'est pas claire, ne donne pas de guidance, qui gêne aussi l'investissement. Et si on veut débloquer l'investissement privé, il faut être clair, il faut donner des directives. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Et là encore, on peut critiquer grandement néanmoins.
Moody's et Fitch ont choisi de ne pas modifier la note française. Mais Standard & Poor's, ce sera le 31 mai. La perspective de la note française de Standard & Poor's est déjà négative. Ça veut dire que Standard & Poor's pourrait, en revanche, avec une probabilité peut-être un peu plus élevée, abaisser notre note. Vous pensez que ce sera le cas?
Avec une probabilité un peu plus élevée, avec une influence également plus élevée. C'est quand même l'agence la plus... Voilà. Et alors, le fera-t-il à 15 jours d'élection qui seront difficiles, on le sait, pour le gouvernement en place. C'est la principale question, en réalité, et c'est là que ça nous permet de prendre un peu de distance par rapport à ce pronostic des agences. C'est qu'on le sait bien qu'elles font pas, elles disent pas n'importe quoi à n'importe quel moment, et que, elles disent pas n'importe quoi, mais disons qu'elles ajustent le tir en fonction du contexte, et que peut-être qu'effectivement Standard & Poor's aimera pas intervenir à la veille d'élections cruciales pour le gouvernement français. Mais au-delà de ça, sinon, la probabilité que S&P baisse downgrade la France est très élevée, effectivement.
Véronique Riche-Flores, le bullshitomètre à retrouver en replay sur notre application BFM Business. Véronique, vous restez avec nous? On va mesurer le potentiel des marchés. Allez, c'est parti. Dans un instant, le club, effectivement, Julien Marion et la famille qui se réunissent, qui nous accompagnent et nous rejoignent chaque jour à 16h30. Merci Julien.
Toujours là pour vous.
Et ben voilà, on vous retrouve aussi sur notre site, bfmbourse.com. Cet article consacré, on en parlait tout à l'heure, à Total Energy. Pourquoi Total Energy ne débarquera pas de sitôt sur le S&P 500? Vraiment très clair, hein, l'article, chapeau, parce que c'est pas un sujet très facile, très assez aride quand même. Là, c'était... Non, franchement, c'est nickel. Voilà, donc n'hésitez pas vous tous aussi à le consulter. Nous, on se retrouve juste après la pause. Le CAC 40 est en ce moment en repli de 0,1%. A tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.